Parlons maintenant de la situation en Iran. Vous savez que parmi les facteurs qui ont été mis sur la place publique pour expliquer la fluctuation à la hausse des prix du pétrole, il y a toute la situation en Iran. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'Iran? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce qui se passe? Programme nucléaire, menace de bombardement de la part des Américains. Et il y a toute la problématique également de la situation à l'intérieur de cette République islamique. Donc, alors que pendant longtemps, on a comme négligé l'Iran puis qu'on se préoccupait de ce qui se passait du côté de l'Irak, voilà que les déclarations des derniers mois, les actions, font en sorte que maintenant, l'Iran apparaît de plus en plus peut-être comme une menace pour le reste de la planète. Est-ce que c'est fondé ou pas? Nous en parlons avec M. Kaveh Mohseni, qui est chroniqueur politique, fondateur du mouvement Iran Résiste, donc un dissident du régime actuel de Téhéran. Bonjour, M. Mohseni.
Oui, bonjour, M. Arkan.
M. Mohseni, la question est très large, mais pour les gens ici en Amérique du Nord, quand on regarde les dépêches, quand on regarde l'actualité, est-ce qu'on doit craindre ce qui se passe en Iran?
Je pense que vous devez craindre ce régime parce qu'il a un contenu idéologique, dogmatique, et pour arriver à ses fins, n'hésite pas à utiliser les sentiments religieux des gens et à encourager la haine entre différentes religions. Mais ce discours, il est à l'attention du monde libre. C'est-à-dire que chaque fois que un pays fait semblant ou dit qu'il va imposer des sanctions à la République islamique, à ce moment-là, ils disent « on a les moyens de vous faire souffrir ». C'est exactement leur mot. C'est un jargon très... jargon de rue, c'est très vulgaire. Et ils disent « on va vous faire souffrir, on va pouvoir poser des bombes, on a les moyens de le faire ». En fait, ils ont les moyens parce que c'est eux qui ont inventé le Hezbollah et qui financent le Hamas.
Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-ci, l'Iran a la capacité de développer, de produire et donc de lancer des armes nucléaires?
Oui, parce qu'en fait, l'Iran est un pays riche et malgré toutes ces richesses qu'il a dans ses sous-sols, les gens sont très pauvres. Donc cet argent va effectivement quelque part, il est dépensé à quelque chose. Alors une bonne partie de l'argent est détournée et ça va dans la poche des mollahs, mais l'autre partie est utilisée pour acheter des armes, des missiles, toutes sortes d'armements, et surtout c'est utilisé pour aider le financement de cette industrie nucléaire, à la fois en Iran, mais aussi en Corée du Nord. Une partie de l'argent de la Corée du Nord pour développer les armes de destruction massive provient de l'Iran, parce que la Corée du Nord, c'est un État très pauvre.
Et on dit que c'est le père de la bombe pakistanaise, de la bombe nucléaire du Pakistan qui travaille avec l'Iran.
Oui, absolument. C'est en fait en 1985, l'homme fort du régime qui s'appelle Rafsanjani, qui est le demi-frère de Khomeini, il a été envoyé dans plusieurs pays avec une délégation assez nombreuse. Il a été en Corée du Nord, il a été en Libye où résidait ce père de la bombe pakistanaise qui est Abdelkader Khan. Et en fait, à ce moment-là, il a acheté auprès des Libyens, des Coréens du Nord et aussi des Chinois la technologie et aussi le service des experts qui sont venus s'installer en Iran et travailler sur le projet. Donc en fait, il y a une volonté permanente de développer cette arme, cette technologie, dans le but de faire des armes et en fait en profiter pour devenir indétrônable. Parce que le régime, il a déjà dans son pouvoir des groupes terroristes et on imagine un peu la combinaison des deux, c'est-à-dire les moyens nucléaires et les groupes terroristes. On s'oriente plus vers les bombes sales ou l'utilisation de bombes ou de missiles à tête nucléaire par des groupes terroristes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les missiles ne partiraient pas de l'Iran, mais tous les autres pays qui ont des affaires avec l'Iran savent qu'ils ne peuvent pas l'embêter parce qu'à tout moment, il peut utiliser ses vassaux terroristes.
Mais est-ce que vous croyez que la thèse voulant que les Américains se préparent à des opérations de bombardement sur les installations iraniennes est crédible?
De toute façon, je pense qu'une diplomatie qui n'a pas un volet militaire ou un volet de sanctions ce n'est que du verbiage. Donc ça fait longtemps que les Européens qui ont d'énormes intérêts en Iran, en fait vous ne trouverez pas c'est les chiffres des intérêts français dans en matière de pétrole sur Internet, mais en fait parce que les Français n'achètent pas du pétrole à l'Iran, y compris pour les Britanniques et les Allemands, c'est eux-mêmes qui forent en Iran leur pétrole. Donc en fait, ils ne le comptabilisent pas comme du pétrole acheté, ils le comptabilisent comme pétrole produit. En fait, une bonne trentaine de pourcents de leur pétrole vient de l'Iran, et vu que c'est eux-mêmes qui le produisent, le prix de revient du pétrole est à 8 dollars et non pas le prix du marché. Donc en fait, quand on dit que c'est lié au pétrole, effectivement c'est lié au pétrole et des intérêts des pays qui sont présents en Iran et qui ont tout fait pendant 2 ans pour marcher dans le sens de l'Iran et dire que par les négociations on arrive. Aujourd'hui c'est bloqué, il y aura peut-être des sanctions, sinon une attaque militaire, et je pense que plus on attend, plus cette attaque va être dure.
Dure dans quel sens?
C'est-à-dire que tout l'Iran qui sera démoli, en fait. Et en fait, les Iraniens pensent que les Européens ne sont pas mécontents que l'Iran soit démoli, parce qu'il va falloir que quelqu'un le reconstruise, et à ce moment-là, il y aura des marchés à prendre. Les Iraniens, au bout de ces 27 ans, sont devenus très cyniques. Ils suivent l'actualité avec beaucoup d'intérêt. Moi, souvent, j'ai des contacts avec des gens très jeunes. Moi, j'ai une quarantaine d'années, mais moi, j'ai des blogueurs iraniens qui ont 20 ans et ils connaissent vraiment très bien la politique et ils passent des heures et des heures à analyser la situation. Mais vu de leur point de vue, quand il se passe beaucoup de mouvements anti-régime en Iran et que ça n'a aucun écho dans l'Occident, ils se disent que les Occidentaux ne sont pas du côté du peuple, mais du côté de leurs intérêts, et ça ne les rassure pas.
Justement, vous faites partie de ces mouvements de dissidence, vous avez quitté votre pays, vous vous êtes installé à Paris. Est-ce qu'en Iran, actuellement, il y a une alternative, je dirais, assez organisée? Autrement dit, est-ce que les dissidents occupent une partie importante du terrain ou s'ils sont vraiment muselés par les mollahs?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a les dissidents. C'est-à-dire que le régime des mollahs, il a ça d'assez formidable. C'est qu'il a pris exemple sur les modèles soviétiques et il les a perfectionnés. Il a mis sur le marché, si on ose dire, des gens qui se disent dissidents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément contre la République islamique, mais ils veulent une République islamique modérée avec un discours assez flou. Et il y a aussi les opposants. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent sans faire de la politique en Iran, et quand ils se lèvent le matin pour se rendre à leur travail, quand ils en ont, ils vont dans la rue et ils voient qu'il y a des gens qui sont pendus à des grues et qui restent pendant plusieurs jours dans la rue. Il y a des gens qui sont très pauvres parce qu'il y a 85% des gens vivent avec moins d'un dollar par jour. Le salaire d'un fonctionnaire est aux alentours de 100 dollars et un loyer normal est à 300 dollars. Donc les gens ont plusieurs travails. Les enfants souvent se prostituent pour que la famille puisse avoir quelque chose à se mettre dans l'assiette. Il y a beaucoup de ventes de drogue, et ce mélange de drogue, jeunesse et prostitution fait qu'il y a énormément de maladies, énormément de tristesse, et les gens, dans cette situation-là, ne peuvent pas être en faveur d'un régime qui dépense des millions pour l'arme nucléaire, alors qu'eux, ils n'ont pas de travail et n'ont pas d'avenir. Donc finalement, il y a un problème de compréhension. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que le régime dit que les Iraniens adorent cette énergie nucléaire, ça les rend fiers. Moi, j'ai rarement vu des gens qui n'ont rien à manger d'être fiers des politiques de leur gouvernement, que ce pays soit démocratique ou non. Mais malheureusement, une bonne partie des correspondants de presse qui vivent à Téhéran, pour avoir des bonnes relations avec les politiques, ne laissent pas apparaître ces franges de population, qui sont quand même 85% de la population, qui vivent complètement en dehors de ce discours pro-gouvernemental. Et du coup, Vous qui êtes assis au Canada et les Français ne peuvent pas soupçonner l'existence d'une opposition, donc ne peuvent en aucun cas nous apporter leur soutien.
Merci beaucoup de nous l'avoir dit, Monsieur Mosseini. Merci.
Merci, allô?
Merci. Au revoir. C'était Monsieur Kaveh Mosseini, chroniqueur politique, fondateur du groupe Iran Résiste, opposé au régime de Téhéran. Et je crois que c'est important de pouvoir, ce matin, regarder cette situation. C'est extrêmement, je dirais, inquiétant ce qui se passe. Vous avez un pays dirigé par des fous de Dieu, des mollahs, qui ont établi donc un régime islamique qui est en train, depuis des années, de bâtir un arsenal d'armes de destruction massive. Et là, c'est vrai, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Le père de la bombe nucléaire du Pakistan travaille avec l'Iran. L'Iran soutient des groupes terroristes comme le Hezbollah. Est-ce que ça veut dire, comme disait M. Mosseini, que la bombe va partir de l'Iran vers un autre pays? Probablement pas, mais que l'arme nucléaire peut être utilisée comme arme sale par des groupes terroristes financés par l'Iran. Alors que vous avez aussi toute la conjoncture du pétrole et de l'économie et de la pauvreté puis du tissu social qui vous a été présenté par notre invité. Alors quand on parle de l'axe, comme dit président Bush, on vient d'avoir le portrait de l'Iran. C'est important parfois de lever la tête sur nos problèmes locaux pour regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, quand vous regardez le prix à la pompe ce matin, il y a un peu de ça, mais à plus long terme, c'est toute la question finalement de la stabilité de la planète qui est en cause. Et d'où l'importance de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays.